l'Iran ripostera aux nouvelles sanctions de l'Union européenne, le Hamas salue l'expulsion d'Israël du sommet africain et le duo Afrique-Russie resserre les rangs face à l'Occident. C'était les principaux titres, en voici le journal. Téhéran promet de prendre des contre-mesures en réaction aux nouvelles sanctions de l'Union européenne visant un nombre de responsables et d'entités iraniens. L'annonce est intervenue lundi soir, 20 février, quelques heures après que le Conseil de l'Union européenne a imposé des mesures restrictives à 32 individus et deux entités iraniens dans le cadre d'une cinquième série de sanctions pour ce que le bloc a appelé la répression des récentes émeutes par Téhéran. La République islamique d'Iran annonce bientôt une liste des sanctions réciproques en réponse aux récentes interdictions de l'Union européenne, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Selon le communiqué de presse de l'Union européenne, le ministre iranien de la Culture et de l'Orientation islamique, Mohammad Mehdi Esmaili, le ministre de l'Éducation, Youssef Nouri, le commandant adjoint et le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique, Ali Fadavi et Ramazan Sharif, un certain nombre de députés, des membres de la police et de l'appareil judiciaire dans diverses villes du pays, ainsi que des gardiens de prison, figurent parmi les personnes blacklistées par le Conseil de l'Union européenne. Les mesures restrictives de l'Union européenne s'appliquent désormais à un total de 196 personnes et 33 entités, consistant à un gel des avoirs, une interdiction de voyager en Europe et de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition des personnes figurant sur la liste. Le bloc des 27 pays européens a imposé des sanctions contre l'Iran pour ce qu'il appelle l'approche du pays face aux émeutes soutenues par l'étranger, qui ont éclaté en septembre dernier après la mort tragique d'une jeune Iranienne appelée Mahsa Amini. Elle s'est évanouie dans un poste de police à Téhéran et a été déclarée morte 3 jours plus tard à l'hôpital. Un rapport officiel de l'Organisation iranienne de médecine légale a conclu que la mort d'Amini avait été causée par une maladie plutôt que par des coups présumés à la tête ou à d'autres organes vitaux du corps. Après sa mort, les émeutiers se sont déchaînés attaquant brutalement les agents de sécurité et causant des dégâts massifs aux biens publics. Des dizaines de personnes et de membres du personnel de sécurité ont été tués dans les émeutes. Lors d'un appel téléphonique dimanche 19 février, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré à Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, que l'Union européenne s'en tenait à la politique inefficace de sanctions de l'ancien président américain Donald Trump contre Téhéran. Le comportement de l'Union européenne ces derniers mois est la continuation de la politique inefficace de l'ancien président américain qui prouve de plus en plus la poursuite de normes ambivalentes et irréalistes de l'Occident, outre l'instrumentalisation des concepts des droits de l'homme, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. La déclaration finale du 36e sommet africain de l'Union africaine n'est pas passée inaperçue de la résistance palestinienne. Le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a salué la déclaration de clôture de l'Union africaine. Le Hamas a demandé aux Nations unies et à la communauté internationale de ne pas passer à côté des crimes du régime occupant israélien et des cas multiples d'agressions contre les territoires palestiniens et de profanation des valeurs sacrées des Palestiniens, sans oublier la violation constante par Israël de leurs droits les plus élémentaires. Le Hamas appelle également la communauté internationale et l'ONU à soutenir la lutte des Palestiniens jusqu'à ce qu'ils parviennent à restaurer leurs droits légitimes, consistant entre autres à créer un État palestinien indépendant avec la noble Rots pour capitale. Suite à l'expulsion humiliante de la délégation israélienne du sommet de l'Union africaine qui a provoqué sans surprise la colère des responsables de Tel Aviv, le porte-parole du Hamas, Jihad Taha, a tenu à saluer tous les efforts qui ont empêché la présence de la délégation israélienne à cet événement. Ce qui, selon le porte-parole du Hamas, correspond parfaitement aux valeurs de principe de l'Union africaine. Le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a salué l'expulsion de la délégation israélienne du sommet de l'Union africaine, qualifiant Israël d'institution raciste. Selon la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadine, le Congrès national africain a annoncé que l'expulsion de la haute délégation diplomatique israélienne de la réunion de l'Union africaine à Addis Abeba était une mesure à saluer. Une délégation israélienne conduite par Sharon Barley, directrice adjointe du département Afrique au sein du ministère israélien des Affaires étrangères, a tenté de participer samedi 18 février à la séance d'ouverture du sommet de l'Union africaine, mais l'opposition des pays africains l'en a empêché et la délégation israélienne a fini par quitter la salle de conférence avec l'intervention des agents de sécurité. Le régime sioniste a immédiatement formulé des accusations non fondées contre l'Iran pour avoir planifié ce scénario. Ces allégations ont fait réagir Vincent Magwenya, porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Lui, qui avait participé en personne au sommet, a affirmé qu'Israël devrait fournir des preuves en appui à ces allégations. Sur ce fond, le chef de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est exprimé dimanche, soit un jour après que la délégation israélienne a été expulsée de la cérémonie d'ouverture du sommet à Addis Abeba. L'Union africaine a déclaré que le statut d'observateur d'Israël au sein de l'organisation avait été suspendu et que le régime israélien n'avait donc pas été convié au sommet. Moussa Faki Mahamat avait accordé son statut d'observateur à Israël en 2021. L'annonce avait suscité un tollé dans tout le bloc panafricain et des protestations notamment de la part de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Ces événements ont été suivis par l'annonce d'une délégation de clôture du sommet africain qui condamne l'assassinat de la correspondante d'Al Jazeera, la journaliste palestinienne Shirin Abu Arla, et affirme son soutien à une enquête internationale indépendante pour découvrir les circonstances de son assassinat. La déclaration indique également qu'elle soutient la direction de l'État de Palestine de renouveler sa demande d'adhésion à part entière à l'Organisation des Nations Unies et appelle également tous les pays à accepter cette adhésion, soulignant le plein soutien au peuple palestinien dans sa résistance face à l'occupation israélienne. Les autorités africaines, dont les chefs de la diplomatie rwandaise et tchadienne, réitèrent la tendance du continent noir à continuer la coopération avec la Russie malgré la menace des sanctions occidentales. Les dirigeants africains déclarent que malgré l'opposition de l'Occident, l'Afrique est déterminée à poursuivre sa coopération avec la Russie, puisqu'ils n'ont jamais vu la Russie comme un ennemi ou comme l'un des anciens colonisateurs de leur nation. Les colonisateurs occidentaux ont beau tenter de dicter à l'Afrique avec qui elle peut entretenir des liens. Le continent ne semble point céder, juge le ministre ougandais des Affaires étrangères. Kampala est déterminé à préserver ses liens avec Moscou malgré la menace de sanctions occidentales. En réponse aux récentes déclarations interventionnistes de certains pays sur le partenariat Afrique-Russie sur divers plans, le ministre ougandais des Affaires étrangères a déclaré que l'Afrique comprend très bien qui est son ami et qui est son ennemi et que l'Occident n'a pas à y intervenir. De nombreux pays africains, dont l'Ouganda, le Tchad et le Mali, sont arrivés à la conclusion que la Russie peut être une alternative appropriée aux pays occidentaux dans le continent noir. Ceci qui ont exploité l'Afrique depuis de nombreuses années. Et cela malgré les retombées des sanctions anti-russes de l'Occident qui a déjà touché la vie des citoyens africains. C'est ce qu'a également confirmé le chef de la diplomatie du Tchad, qui estime que Moscou pourrait par ailleurs être un soutien fiable et influent dans la lutte contre le terrorisme. Le Tchad est bien décidé à continuer sa coopération avec la Russie, particulièrement dans le domaine militaro-technique, confie-t-il. Le président américain Joe Biden a effectué lundi 20 février une visite inopinée à Kiev où il a promis une aide militaire d'une valeur de 500 millions de dollars près d'un an après le début de la guerre russo-ukrainienne. Le président américain doit également se rendre en Pologne. De loin, le plus grand fournisseur d'assistance militaire à l'Ukraine depuis le début de l'opération militaire spéciale de la Russie en février dernier, les États-Unis ont annoncé un plan d'aide supplémentaire de 500 millions de dollars qui comprendrait davantage d'armes et d'équipements militaires, y compris des obusiers et des missiles anti-chars Javelin. Biden s'est voulu rassurant sur le fait que Washington resterait aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudrait. malgré tous les désaccords que nous avons au sein de notre Congrès sur certaines questions, il existe une entente significative en faveur de l'appui à l'Ukraine, a dit Biden. Pour sa part, Zelensky a déclaré à Biden que sa visite à Kiev était un signe d'appui extrêmement important pour tous les Ukrainiens. La vice-présidente américaine Kamala Harris, s'exprimant samedi lors de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, a accusé la Russie d'avoir commis ce qu'elle a qualifié de crime contre l'humanité au cours de son opération militaire de près d'un an contre l'Ukraine. Harris a ajouté que la Russie devrait être tenue responsable de ses actes. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans quelques instants, je vous présenterai le commentaire politique. La mise en œuvre des accords de coopération Iran-Chine. Les récents accords conclus entre l'Iran et la Chine deviendront opérationnels d'ici 2 mois et leurs effets seront bientôt perceptibles, a déclaré lundi 20 février le chef de l'Organisation iranienne pour le développement du commerce, Ali Reza Peymanpak. Concernant la récente visite du président iranien Ebrahim Raisi à Pékin, Ali Reza Peymanpak a indiqué que les préparatifs de ce déplacement, avec pour objectif le développement des relations commerciales et économiques avec la Chine, avaient été faits plusieurs mois auparavant avant de poursuivre. La Chine étant l'une des plus grandes économies du monde, le développement des relations commerciales et économiques sino-iraniennes faisait partie des priorités du gouvernement iranien. La visite du président Raisi a marqué une série d'accords, de mémorandums et de contrats signés entre les deux parties afin de développer des relations dans plusieurs domaines, dont le tourisme, les mines, les chemins de fer, le commerce, les machineries, les équipements industriels et miniers. Le responsable iranien a ensuite déclaré que la Chine comptait parmi les plus grands utilisateurs de matières minérales au monde, ajoutant que des échanges sur la participation des entreprises chinoises au développement des industries minières en Iran avaient été menés. Pour ce qui est de la production conjointe sino-iranienne pour réduire le coût du transport, le chef de l'Organisation iranienne de développement du commerce a déclaré que l'un des principaux enjeux du secteur commercial après la pandémie de COVID-19 était la hausse du prix du transport, ce qui fait que sur les 2 dernières années, le transfert d'un conteneur de la Chine vers le Moyen-Orient qui revenait à 1 000 $ a été multiplié aujourd'hui par 7 ou 8. Au regard au rapprochement politique et social et aux accords commerciaux entre l'Iran et les pays de la région, la décision a été prise de tirer profit de ces possibilités dans le cadre de la production conjointe d'entreprises iraniennes et chinoises en Iran en vue de l'exportation vers les pays de la région, a-t-il dit, indiquant qu'il s'agira d'un partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays. Faisant référence aux accords industriels d'une valeur de 3,5 milliards de dollars entre l'Iran et la Chine, Peymanpak a déclaré que l'un de ces accords était de coopérer avec les marques automobiles chinoises qui réalisent des exportations de qualité afin d'améliorer la fiabilité des moteurs et des équipements automobiles. L'Iran et la Chine, a-t-il dit, sont parvenus à de bons accords sur la coopération dans l'industrie automobile, notamment sur le transfert de technologies, l'amélioration de la production et de la fourniture de pièces, ainsi que dans le secteur ferroviaire. D'ici 2 mois, la plupart de ces mémorandums, accords et contrats entre l'Iran et la Chine seront mis en œuvre, a fait savoir le chef de l'Organisation iranienne pour le développement du commerce.